8h13 sur Europe 1. Bonjour Richard Malka.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes l'avocat de Charlie Hebdo. Le verdict est tombé hier au procès en appel de ces attentats de janvier 2015. On met un peu tout finalement dans cette grande boîte, à la fois les attentats de Charlie, mais aussi ceux d'Amedi Coulibaly, la policière à Montrouge, l'hypercacher. On aura d'ailleurs l'occasion de parler, il y a peut-être des nuances à faire entre ces différents attentats. Nous tenions à vous avoir ce matin avec nous, Richard Malka, sur Europe 1, car une chose nous a frappé, personne n'en parle de ce procès, personne n'en a parlé pratiquement cette semaine.
Bon, personne, vous êtes un peu dur, le Monde a suivi le procès, Mediapart aussi l'a suivi sous un autre angle, il y a une radio juive évidemment qui, RCJ pour pas la nommer, qui était là tous les jours, juste pour le volet hyper cacher.
Mais c'est quoi? C'est une lassitude?
Non, mais c'est un procès d'appel, donc c'est toujours comme ça. Et puis peut-être qu'il y a aussi un peu de lassitude, parce qu'il y a eu le premier procès Charlie, et puis le 13 novembre, et puis là, il y a Nice. On peut comprendre que qu'on n'ait pas envie de lire des choses sur des attentats tous les jours.
Ouais. Ces 6 semaines de procès, d'ailleurs, vous me l'avez dit, vous êtes un peu fatigué là maintenant.
Oh,
c'est,
oui.
C'est dur de plaider à nouveau dans la même affaire, Maître Malka.
Alors j'étais dans un cas de figure un peu compliqué, parce que ma plaidoirie d'il y a 2 ans m'avait traité à peu près tous les sujets que j'avais envie de traiter autour de la liberté d'expression de Charlie, des caricatures, du droit au blasphème.
Et vous l'avez publié sous forme de livre, d'ailleurs.
Elle a été publiée sous forme de livre, elle a rencontré un certain écho, tout le monde l'avait lu, en tout cas dans la salle d'audience. Ça n'aurait eu aucun sens, en réalité, pour moi, que de refaire la même chose dans mon... dans ma démarche, qui était d'essayer d'analyser ce qui s'était passé et de faire de la pédagogie. Ça n'aurait pas eu de sens de la refaire. Donc il fallait que je fasse autre chose. Mais je pensais avoir tout dit.
Alors,
donc j'étais bien embêté.
Allons-y, parce que l'angle de votre plaidoirie, ça va faire réagir, je pense, ceux qui ne vous ont pas entendu. Vous dites dans cette plaidoirie, c'était lundi, que le véritable accusé, votre accusé, n'a jamais comparu devant un tribunal, puisque c'est la religion. Là, il faut vous expliquer, Maître Malka.
Bah, c'est ce que je vous indiquais, c'est-à-dire que dans ma démarche, à un moment, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai pas traité? J'ai traité des conséquences de la terreur, des conséquences liberticides de la terreur, mais en fait, je n'ai jamais fait qu'effleurer la cause de celle-ci. Et la cause de celle-ci, il faut la regarder en face. À un moment, il faut regarder, il faut dire, il faut nommer et il faut analyser, sinon on n'a aucune chance de trouver un remède. Et
alors,
sinon,
nommons, puisque vous dites la religion, l'islam.
Alors, c'est ce que je dis dans ma plaidoirie.
Oui, mais vous précisez.
Je le précise, bien évidemment. Je commence par le plus large, parce qu'on a quand même plaidé dans la salle Voltaire, ce qui était une ironie de l'histoire assez incroyable pour juger des attentats contre Charlie Hebdo à raison de la critique des religions. Voltaire, le plus grand pourfendeur de religion du siècle des Lumières.
Et défenseur de la liberté d'expression.
Et évidemment. Oui, la religion est, en l'occurrence... une vision de l'islam. Et oui, il faut le dire. Et cette vision de l'islam, qui est présente depuis les origines de l'islam, qui s'oppose à une autre vision de l'islam, qui veut éradiquer d'ailleurs tous les autres courants de l'islam, c'est une idéologie totalitaire. Et comme toutes les idéologies totalitaires, il faut les dénoncer. Oui. Et dénoncer une idéologie totalitaire qui opprime les peuples, qui est une machine à dévorer les cerveaux, à soumettre, à empêcher la réflexion, et qui mène au rigorisme, à la violence, à une interprétation complètement aberrante des textes, à des contresens sur le Coran, qui fait dire n'importe quoi à ce texte sacré, et surtout qui prive de liberté des dizaines de millions de personnes, qui aboutit à ce qu'on brûle pour blasphème Déborah Samuel au Nigeria il y a quelques mois, une jeune étudiante, ou un malade mental au Pakistan il y a aussi quelques mois, ou a tué Yvan Colonna en prison en l'étouffant sous un sac pendant 8 minutes, ou à déprogrammer un film en Angleterre. Il faut le dénoncer. Et le dénoncer, en fait, dénoncer cette idéologie-là, dénoncer cette vision de la religion, ça s'appelle pas de l'islamophobie, ça s'appelle de l'humanisme. Ceux qui ne le font pas sont complices d'une idéologie totalitaires. Ils ne le font pas par posture, par calcul politique, par culpabilité parfois, mais en réalité, et comme par le passé à de nombreuses reprises pour les idéologies totalitaires, celles-ci trouvent toujours des idiots utiles pour ne pas les dénoncer.
Alors justement, on a des exemples là très concrets. Par exemple, très récemment, un musée mémorial du terrorisme doit ouvrir ses portes dans quelques années à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Alors, ils ont déjà un gros site internet où ils expliquent le projet. Et ils proposent une exposition en ligne en ce moment intitulée « Faire face au terrorisme ». Et ça montre des travaux de collégiens, de lycéens, réalisés par des élèves des académies franciliennes seulement. Et ça vous a rendu furieux. Des dessins de Luz, de Cabu ont été expurgés de cette exposition. Cette décision, c'est celle d'idiot utile, ce que vous dénonciez à l'instant, Richard Malka.
C'est l'habituelle trahison des clercs. C'est-à-dire qu'on fait, je ne sais pas pourquoi on le fait, ce musée. En fait, il faut arrêter là. Il faut y renoncer. Parce que faire un musée du terrorisme qui ne parle pas de terrorisme, parce qu'on a peur, c'est le message contraire de celui que l'on veut envoyer. On veut faire un musée terroriste pour montrer la société est résiliente, elle n'a pas peur, mais alors surtout, on montre rien de gênant à l'intérieur. Mais je ne sais pas qui on met à la tête de ces machins-là, quoi. La première qualité dans la vie, c'est le courage. Surtout à ces postes-là. Faut leur faire passer un entretien d'embauche un peu plus sérieux. C'est aberrant. Vous faites un musée sur le terrorisme. En fait, il ne faut pas parler de Charlie Hebdo. Oui. Puis il ne faut pas parler d'islamisme, peut-être. Peut-être qu'il ne faut pas parler de terrorisme tout court.
Oui, mais il faut regarder quand même les gens. Je dis les gens en général.
On fait le constat qu'on a peur, mais ne le faisons pas dans ce cas-là. Oui.
Mais regardez,
Hebdo, c'est pire que tout.
Charlie Hebdo, Samuel Paty, Salman Rushdie. On voit que d'abord, les héros sont souvent bien seuls face aux islamistes. Et la question qu'on se pose, Rhys, le dessinateur, l'a posée il y a 2-3 ans. Il dit, est-ce qu'on est plus courageux après cette vague d'attentats, Richard Malka? Vous semblez dire que non, au contraire.
Moi, je distingue deux choses. Tous les jours, je vois des gens dans la rue, en séance de dédicace, dans les conférences. Je ne vois que des soutiens. Que des gens qui disent, mais heureusement que y a des gens comme vous pour parler, pour oser parler. Et en fait, ce sont des gens de gauche, en général, complètement démunis, qui ne savent pas quoi faire, qui se sentent abandonnés, qui n'ont pas de canal d'expression, qui n'ont plus d'offres politiques et qui sont désespérés, en fait.
Il n'y a plus d'offres politiques à gauche pour les
universalistes
contre le terrorisme.
Pour les universalistes laïcs, non, il n'y en a plus. Mm-hmm. Non, il n'y en a plus. Enfin, si, il y a quelques personnalités comme ça qui sont qui ont des discours très courageux.
Mais dans les partis politiques, vous ne voyez plus personne.
Oui. Il n'y a plus de PS. Il y a les Verts, on ne sait plus où ils sont. Oui. Non, sur ces questions-là, il y a un malaise. On n'ose pas être universaliste, laïque. Non, on a abandonné, mais c'est pas le peuple. Le peuple continue à être viscéralement attaché, y compris à mon discours sur la méfiance que l'on doit avoir à l'égard des religions, précisément pour éviter que les religions sombrent dans l'idolâtrie et le sectarisme, en l'occurrence venu du wahhabisme d'Arabie, qui déverse des milliards depuis 50 ans avec le Qatar pour alimenter la vision idéologique et politique de l'islam qui est en réalité qui confine à une secte.
C'est la question que je voulais vous poser. D'après vous, quels sont les ressorts de ce triomphe des rigoristes? Est-ce que c'est qu'une question d'argent, de moyens, en disant que ces idéologies-là prospèrent là où il y a du pétrole?
Non, c'est évidemment complexe. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Hamedi Redici, c'est beaucoup d'intellectuels musulmans. Cet islam sectaire wahhabite salafiste a pris en otage l'islam, a confisqué cette religion pour essayer d'en faire une secte, jusqu'au point où ça devient tendance et à la mode de ne pas écouter de musique, surtout quand on est une ancienne chanteuse, et puis tout le monde trouve ça très drôle. Et puis ça fait un succès commercial et ça fait modèle dans la jeunesse.
Donc là,
il y a une pensée. Mais après, c'est évidemment des phénomènes complexes. L'absence de clergé dans le sunnisme est un élément qui rend les choses complexes, parce que du coup, il n'y a pas d'autorité légitime pour dire la ligne est celle-là. Donc il y a évidemment, et puis il y a une bataille entre deux courants qui remonte à 1400 ans. Oui. Et puis les radicaux, C'est un discours qui est plus facile, qui est plus simple, qui demande moins d'études, en fait.
C'est ça. Et alors, quand vous voyez ce qui se passe, par exemple, on
en
parle beaucoup.
Et puis, il y a un repli identitaire, et puis, il y a un renoncement de la République à ses valeurs, et c'est multicausal.
Quand on voit ce qui se passe dans les établissements scolaires aujourd'hui, vous voyez, il y a cette offensive, poussée en sous-main, d'ailleurs, par des activistes islamistes, de dire aux jeunes, présentez-vous, mettez vos vêtements religieux, vous avez le droit. La pause clope, ça vaut la pause prière aussi. Il y a cet argument qui revient souvent, la facilité des arguments massus comme cela, Richard Malka. C'est ça, c'est la force de la rhétorique aussi aujourd'hui qui fait le triomphe du
rigorisme. Non, mais c'est pour ça qu'il faut un contre-discours. Sinon, on a perdu.
Mais comment vous expliquez la laïcité aux jeunes aujourd'hui? C'est très compliqué, la laïcité, Richard Malka, dire.
C'est pas compliqué.
Brider sa religion, sa foi religieuse, son expression, c'est une forme d'émancipation. C'est pas évident.
Mais non, mais c'est pas compliqué. Et quand on le fait, et ça m'arrive de le faire, même si j'ai peu de temps. Alors, c'est pas la peine d'utiliser des grands mots. Faut laisser de côté les mots conceptuels, laïcité, universalisme. Mais parler de liberté aux jeunes, y a toujours une petite lumière qui s'allume dans leurs yeux quand même. Ouais. À cet âge-là, ils n'ont pas encore perdu le goût de la liberté. Ils n'ont pas l'attirance pour les chaînes et les barreaux que l'on peut avoir plus tard quand on a l'esprit complètement fanatisé.
Mais pourquoi cette attirance d'après vous? C'est quoi c'est bien, on pense plus, on débranche.
Parce que c'est réconfortant. Oui. Il n'y a pas de risque. On vous dit quoi faire. Vous n'avez pas à vous poser de questions. La liberté, c'est un gouffre. Vous êtes dans le doute constamment. C'est pas confortable, la liberté. Là, on vous dit, vous vous habillez comme ci, vous mangez ceci, vous avez telle relation. Il n'y a pas à se poser de questions. On est dans le bien. Vous savez, c'est Delphine Horviller qui est venue témoigner au procès, qui disait, mais un fanatique, en fait, elle donnait la définition d'un fanatique, c'est quelqu'un qui ne sait pas compter au-delà de 1. C'est hyper agréable de ne pas savoir compter au-delà de 1. On a la révélation, on ne se pose aucune question. Ouais.
Richard Malka, on n'a même pas parlé finalement des deux accusés qui étaient jugés hier, et je crois qu'en fait ça vous intéresse pratiquement même plus.
Non.
Non, c'est...
Mais moi je l'ai déclaré dès le départ, je n'étais pas là pour eux. Ouais. Moi, mon rôle comme avocat du journal Charlie Hebdo, c'était de m'adresser à vous, à l'opinion publique, à la société.
Comment ils vont chez Charlie aujourd'hui, Richard Malka?
On est tous fatigués parce que c'est une épreuve, un procès comme celui-là, ça dure 6 semaines, c'est physiquement épuisant, moralement, psychologiquement, le fait de revenir, ça nous a tous beaucoup, beaucoup remués.
Alors pour des anticléricaux comme eux, ils ont toujours la foi, si je puis dire, dans leur défense de la liberté d'expression. Est-ce qu'ils ont toujours aussi, on a senti une sans forme de rancœur à se dire, on nous a quand même, beaucoup de gens nous ont lâchés dans les heures difficiles. Richard Malka,
faut pas rester avec de la rancœur. Ouais. Ça sert à rien, c'est vain. Faut se battre.
Ce sentiment de je regarde derrière moi, tiens, c'est bizarre, les rangs se sont un peu clairsemés.
Ah, ça, mais dans des combats comme ça, on perd toujours plein de gens en route. Après, ça a un avantage, c'est que vous voyez qu'ils sont vraiment vos compagnons de combat, et ceux avec qui vous voulez aller à la guerre et sur qui vous pouvez compter. Mais maintenant, c'est un combat, Charlie Hebdo, c'est un symbole, et comme Salman Rushdie, et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre que de continuer à combattre?
Tiens, il y a une question que j'ai oublié de vous poser. Dans la mémoire collective, c'est vrai que les attentats, je l'ai dit, Charlie, c'est mélangé avec l'hypercachère. Ça fait qu'un dans la mémoire, alors qu'en fait, vous dites qu'il faut les distinguer, parce que d'un côté, effectivement, c'est le blasphème qui était visé, Charlie, et de l'autre, ce sont les juifs. Quel est le fil conducteur?
Alors ça, c'est une question qu'on s'est tous posée depuis 8 ans, en fait. Parce que Charlie, aussi horrible que ce soit, on comprend la démarche qui fait qu'on est arrivé à faire un attentat contre eux. Aussi horrible soit cette démarche. Mais qu'est-ce que les Juifs viennent faire dans cette histoire? Puisque les attentats ont été préparés de concert. Pourquoi les Juifs, en fait? On s'est tous posé cette question. Alors, Marc Trividi qui est venu dire, l'ancien juge d'instruction, mais en fait, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, quand on ne sait pas contre qui faire un attentat, on fait les Juifs. C'est terrible. Moi, je proposais une autre lecture, mais après, personne ne sait qui a raison. Je pense que là aussi, si on remonte aux origines, Il y a dans le dans l'imaginaire islamiste une histoire très célèbre de Mahomet qui demande qu'on aille tuer un poète juif qui se moque de lui qui est par ailleurs un chef de tribu de Médine et donc on en tire une justification religieuse du meurtre des juifs.
Le juif par essence est un blasphémateur.
C'est ça et du blasphème. C'est-à-dire qu'en fait ce serait la même raison à 1400 ans de distance qui aurait conduit au meurtre de Charlie et des juifs, la moquerie. Merci. Alors que dans le Coran, il n'y a pas de sanction de mort à raison de la moquerie. Donc on fait, même les littéralistes font une interprétation des textes. En fait, ils arrangent les textes exactement comme ils veulent. Ils laissent de côté ce qui ne leur plaît pas, parce qu'il y a beaucoup de versets protecteurs des juifs dans le Coran lui-même. Et ils vivent dans un monde de fantasmes qui, en réalité, est dans une religion qui n'a jamais existé. Pardon d'avoir un peu prolongé mon interview.
Merci Richard Malka. C'est un plaisir de vous recevoir sur Europe 1. Merci d'être venu nous voir ce matin.